Comme la chanson nous l'amenait, c'est le problème du juge espagnol Baltasar Garzón qui nous occupe. Ce juge, célèbre par ses procédures contre les dictateurs d'Amérique latine, a touché un tabou. Il veut rouvrir le dossier de la dictature franquiste et faire la lumière sur les 100 000 victimes du régime de Franco depuis la guerre civile jusqu'à 1975. Alors, ces crimes étaient prescrits depuis la loi d'amnistie de 1977, mais Baltasar Garzón les a requalifiés en crimes contre l'humanité, ce qui lui permet de les poursuivre. Il est accusé par des organisations d'extrême droite d'avoir abusé de son pouvoir, et du coup, ce juge pourrait être suspendu de ses fonctions pendant la procédure. Mais l'affaire aussi a pris des proportions nationales, c'est ça qui nous intéresse. C'est tout le refoulé du franquisme qui ressurgit, et les soutiens du juge sont immenses. Déjà 100 000 signatures de citoyens, mais aussi 800 universitaires français, des comités d'artistes comme Almodovar. D'ailleurs, on a appris tout à l'heure que samedi prochain, il y aurait une grande intervention à Madrid. Et un discours de Pedro Almodovar, des syndicats, des organisations internationales. Alors, la justice doit être faite, ou au moins dite, mais à quel prix? Le pays peut-il se réconcilier avec son passé, ou au contraire, cette volonté de justice va-t-elle ramener les haines de la guerre? Barbara Cassin, faut-il la vérité?
Quelle énorme question. je dirais tout de suite, ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend comment. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait une seule, la vérité, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas bien cette affaire du juge Garzón, mais je connais mieux ce qui s'est passé en Afrique du Sud.
Oui, vous avez travaillé sur la commission de vérité et réconciliation.
Et je voudrais juste te dire une chose. Desmond Tutu disait « il faut assez de vérité pour ». « Enough of the truth for ». Il ne disait pas « il faut la vérité ». Et en tout cas, pas la vérité historique, ni non plus la vérité ontologique ou épistémologique. Il faut assez de vérité pour. Mais alors pourquoi? En tout cas, quand vous avez présenté le sujet, vous avez parlé d'un pays, de l'échelle d'un pays. Il faut assez de vérité pour qu'un pays soit un pays. C'est-à-dire, ait au fond un passé commun, partage, puisse... Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'était un peu différent, puisque ce n'était pas seulement le passé commun. Le passé commun était une condition nécessaire pour un nouveau pays, un nouveau peuple arc-en-ciel. Mais là, la vérité ou les vérités, ou de la vérité, assez de vérité pour que l'Espagne soit une. Ça, oui. Et c'est-à-dire pour qu'elle sache... je dirais que la vérité est d'abord peut-être, en l'occurrence, une question de mémoire.
Oui, alors c'est un problème parce qu'évidemment, pour que l'Espagne soit une, déjà elle n'est pas complètement une parce qu'on sait très bien qu'il y a des revendications autonomistes très fortes et des identités, par exemple l'identité catalane est très forte, mais basque aussi. Voilà. Oui. Et donc à partir de là, évidemment, le rapport à la mémoire, s'il est dans un territoire qui est un peu multiple, il est difficile. Et alors, donc est-ce que cette mémoire risque de ranimer des fractures, comme on dit, encore plus grandes? Ou bien peut-il y avoir une sorte de réconciliation, parce que c'était le mot de la commission, réconciliation avec une lumière faite sur les crimes du passé. Même que je rappelle quand même que la transition démocratique s'est faite sur un certain déni, c'est-à-dire le Juan Carlos a permis une transition démocratique après la dictature de Franco et a instauré la démocratie sur la possibilité justement que tous ceux qui étaient aussi les bourreaux puissent avoir leur place. Enfin, c'est le cas aussi dans beaucoup de dictatures où on a exercé ce déni au nom de la paix civile.
Oui, il y a une phrase dans La vie de Solon, une phrase de Plutarque que je trouve absolument magnifique. Il dit « Il est politique d'ôter à la haine son éternité ». Donc c'est une question politique. Et c'est même peut-être la question politique par excellence. Simplement, il s'agit de savoir si on peut ôter à la haine son éternité en donnant de la mémoire ou bien au contraire en donnant de l'oubli. Et c'est ça la question de l'amnistie. Pour Athènes, par exemple, qui a donné le premier décret d'amnistie connu après la tyrannie des Trente, amnistie veut dire amnésie. C'est un doublet grec, amnistie, amnésie. Et pour l'Afrique du Sud, Amnistie veut dire savoir. La définition de l'amnistie que donne Desmond Tutu, c'est la vérité en échange de la liberté. Alors, c'est entre ces deux extrêmes que, là, l'Espagne a à choisir. Nous avons choisi, nous, en France, d'une part, une amnistie et d'autre part, des archives et un temps de latence des archives. Et maintenant, les archives viennent au jour avec quand même des restrictions qui concernent les gens encore vivants et amnistiés. Là, il n'y a pas de. Je ne suis pas historienne, mais je crois vraiment savoir qu'il n'y a pas possibilité de dévoilement. Or, ce dévoilement, c'est justement ce qui a eu lieu en plein et pour tout et pour tous dans l'Afrique du Sud.
Bernard Sèvres, vous vouliez intervenir.
Oui, je trouve tout à fait remarquable la formule de Plutarque que vous venez de citer, et elle m'évoque une formule de l'édit de Nantes. On est au XVIe siècle, mais c'est quelque chose évidemment de très éclairant aussi. Et dans l'édit de Nantes, il y a une phrase que Paul Ricoeur commande d'ailleurs dans son dernier gros livre, enfin le dernier qu'il ait publié, qui est « Il est interdit de faire mémoire des offenses reçues ». Et l'édit de Nantes se construit sur un oubli délibéré.
Oui.
Et c'est vraiment très intéressant le chemin
fait. Mais alors quand même, est-ce que vous n'êtes pas frappé que, alors que bon, voilà, l'Espagne est un grand pays démocratique et voilà, en pleine, qui a connu un essor extraordinaire, politique, économique, que 40 ans après, on assiste à une si forte mobilisation. C'est quand même la preuve que les plaies sont quand même toujours ouvertes, parce que là, il y a des manifestations.
Ça n'a pas été réglé, ça c'est sûr.
Voilà.
Ça a été beaucoup moins bien réglé qu'en France, parce que ça a été beaucoup plus couvert.
Oui.
Et c'était, c'était
dans Maracassa, quand vous parlez de la France, vous parlez de l'occupation ?
Oui.
Oui,
d'accord. Je parle de l'occupation et je parle évidemment pas de. Enfin, il faut en France distinguer et ce qui s'est passé et les crimes de l'occupation et les crimes nazis contre les juifs, même si les deux sont liés.
Oui, enfin, même s'il a fallu quand même énormément de temps
pour
que aussi, par exemple, un film grand public sorte sur
bien
la rafle
de Vendôme. Bien sûr, bien sûr.
Mais alors, je reviens à l'Espagne. Donc. Là, ce refoulé qui surgit, qui a permis la transition démocratique, malgré tout, ça veut dire qu'il n'a pas autorisé pour longtemps une paix civile, puisque c'est toujours là. Alors, on a beaucoup accusé Zapatero de vouloir enlever les symboles du franquisme qui existent encore, notamment dans les villes, parce qu'il remuait donc toute cette affaire. Mais bon, voilà, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour. Parce que le Parti populaire aussi, évidemment, a dans ses rangs d'anciens franquistes, on le sait très bien.
Oui, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, bien sûr, mais je suis quand même pour la vérité, en distinguant, enfin pour des vérités, et la vérité qu'il faudrait au pays maintenant, et ça c'est très difficile à déterminer, mais en distinguant vérité et châtiment.
Oui.
Je veux dire, ça c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que si on pouvait obtenir la vérité sans revenir sur l'amnistie, là on aurait une amnistie non amnésique. Et probablement que ça serait déjà un grand pas de fait pour quelque chose de l'ordre d'une réconciliation nationale.
Une justice non punitive.
Bah oui, une justice non punitive. Et en ce cas, tout est à repenser, même la procédure contre le juge Garçon.
Donc ça veut dire une justice qui ferait la vérité, mais qui ne tirerait pas les conséquences de cette vérité.
C'est-à-dire je ne suis pas sûre que les conséquences soient nécessairement punitives.
Oui. Et la question de la réparation, par exemple, toutes ces fosses communes où étaient enterrées de manière anonyme, évidemment, toutes les victimes du franquisme. Donc, de ce point de vue-là...
Je ne sais pas tout ça. Mes opinions la relèvent de l'apprenti sorcier.
Oui.
Je dirais que c'est très important et tout ce que je connais vraiment de plus près, c'est l'Afrique du Sud. Oui. C'est très important, ça a été très important de pouvoir savoir qui était mort, comment et où, et de pouvoir faire son deuil. Donc ça fait partie, disons, de la vérité de mémoire. Et il n'y a pas de raison d'amnistier la mémoire. On peut amnistier des crimes, mais pas la mémoire.
Alors, quand vous dites, Barbara Cassin, qu'il n'y a pas la vérité, il y a des vérités,
oui.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il y a des points de vue sur la vérité, et effectivement, c'est ce que vont revendiquer un certain nombre d'historiens. Bon, en France aussi, il y a eu ce type de débat, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le danger d'occulter le fait quand même qu'il y a aussi des crimes qui ont été commis, et qu'il y a quand même cette vérité factuelle? Ensuite, bien sûr, il y a l'interprétation, et de savoir si on peut justifier ou pas la guerre, les meurtres, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous entendez par « il y a des vérités » plutôt que… Attention, évitons de dire « il y a la vérité
». Si vous voulez, la vérité avec un grand V, ça m'inquiète toujours terriblement, parce que, et surtout en politique. Enfin, on voit tout droit, là je suis arendtienne. Elle dit, Anna Arendt dit toujours que la vérité en politique, c'est prendre pied hors du politique. Et elle voit de Platon à Heidegger, et ça m'oppose justement avec Badiou.
Oui, c'est ce que je voulais dire, ou je le pensais en tout cas.
Qu'on a écrit ensemble. Elle voit là, disons, le germe des philosophes rois, c'est-à-dire aussi des amis des tyrans. Bon, donc c'est par précaution que je ne souhaite pas qu'on mette une majuscule à vérité, oui. ni non.
Alors,
plus
est-ce qu'il y a que des vérités,
un article défini,
situées, des vérités relatives.
Je pense que il y a en tout cas des vérités. Et d'ailleurs, ce que je trouve, ce que m'a appris la commission Vérité Réconciliation, c'est à les nommer. C'est-à-dire que la commission, par exemple, distinguait la vérité du prétoire, la vérité du tribunal qu'elle appelait forensic. Cette vérité-là, c'est celle des faits qui étaient établis par des croisements et qui d'ailleurs, à un moment donné, on les considérait comme suffisamment établis. Mais on les considérait comme des fictions, si vous voulez, au sens lacanien du terme avec un X. Voilà, c'est fixé, ça va. Bon. Donc ça, c'est une vérité de tribunal. Ensuite, il y a la vérité personnelle et narrative, disait encore Desmond Tutu, qui permet d'obtenir ces vérités au croisement de tous les récits. Et des récits antagonistes. Ensuite, il y a la vérité sociale, différente pour les victimes et pour les bourreaux, et pour les politisés et les non-politisés, et pour les politisés ici et les politisés là. Et puis, il y a la vérité qui soigne, celle dont on a besoin, celle justement qui était qualifiée de assez de vérité pour, la « healing truth ». La vérité qui soigne. Celle-là, il y en a toujours besoin. Et je ne sais pas exactement quelle serait la vérité qui soigne pour l'Espagne, mais il y en a une. Ça, c'est sûr, et c'est ça qu'il faudrait chercher.
Oui.